Le cinéma, un monde aux horizons multiples et variés, où bon et mauvais se côtoient sans arrêt. Ensemble, cinéma, séries, jeux vidéo, livres, BD, comics forment un vaste univers. Découvrez-en le bon comme le mauvais avec de l'actu, des avis, des suggestions, des focus, nombre de rubriques qui sont au programme de Showtime. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Showtime. Vous pouvez écouter l'émission autant sur Radio Larzac que sur Radio Sainte-Afrique. Et si vous venez à la louper, c'est pas grave, elle est disponible en podcast sur les sites de Radio Larzac et Radio Sainte-Afrique. Au programme de cet épisode du mois d'avril, l'actu du mois, mon avis sur Horns, quelques suggestions et un focus sur Agents of S.H.I.E.L.D. Avant d'entrer dans le vif de l'épisode, pour pas changer, musique avec LG Something Good.
Thank you. Oh, something good. Oh, something good tonight made me forget about you for now.
C'était Algie, Something Good, musique extraite de la bande originale de l'épisode 2 de Life is Strange. Life is Strange, dont j'ai parlé dans le focus de l'épisode de Showtime du mois dernier. Bon, je dis que la musique est extraite de la bande originale du jeu, mais à la base, elle existe sur un album. Je pourrais pas vous dire lequel, mais c'est pas qu'au jeu. Enfin bref, l'actu du mois, on y va. L'actu du mois. Ce mois-ci, vous avez droit à une nouvelle news sur Pirates des Caraïbes 5. Là, ça marche, il y a le 5, du coup on peut en parler comme Pirates des Caraïbes 5 sans préciser obligatoirement le sous-titre. Bon, faut que j'arrête avec ce coup de gueule du mois dernier, moi. Oui, la news. Donc, une information supplémentaire au sujet du casting du 5e opus des aventures du capitaine Jack Sparrow. On apprend, enfin, de ce que j'en ai lu, ça fait un moment que ça sait. Mais moi je l'apprends. Ben du coup, je vous l'apprends, je pense. Que Kaya Scodelario a rejoint la production de Pirates des Caraïbes 5, Dead Men No Tales. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Kaya Scodelario a joué dernièrement Teresa dans Labyrinthe et est principalement connue pour son rôle de Effie dans la série britannique Skins. La belle voguera aux côtés de Johnny Depp dans ce film qui, espérons-le, lui permettra de se dévoiler aux yeux du grand public. 33. En attendant un titre officiel, on va l'appeler comme ça. Je pense que vous l'avez compris, c'est officiel, Tron va nous revenir. Le premier épisode date de 1982. En 2011, la saga nous est revenue avec brio sous la caméra de Joseph Kosinski avec Tron l'héritage. Un troisième opus semble aujourd'hui se préciser. Si Gareth Edlund serait de la partie, on n'en sait pas plus de la participation ou non de Olivia Wilde. La Belle reprendra-t-elle son rôle de Cora? La logique voudrait que oui, mais qui pour diriger le film? Disney essayerait de faire les yeux doux à Joseph Kosinski pour qu'il revienne derrière la caméra pour ce troisième épisode de la saga Tron. Les dernières rumeurs voudraient que Joseph Kosinski soit bien de retour derrière la caméra. Et en plus, on aurait un titre pour ce 33 qui s'intitulerait Tron Ascension, Tron Ascension en français, et non Tron 3. Donc, si le Tron Ascension s'avérait être vrai, évitez d'en parler comme d'un 33 devant moi, s'il vous plaît. Des nouvelles concernant le troisième opus américain de la terrifiante saga The Ring. La sortie du second opus remonte à 2005 et depuis, on était sans nouvelles de l'itération américaine du célèbre film d'horreur japonais Ring. Bon, il y avait bien des rumeurs par-ci, par-là, mais rien de bien concret. Aujourd'hui, la donne a changé puisque l'on en sait un peu plus. Le prochain The Ring s'appellerait The Rings avec un S. Et ça serait une préquelle. Une préquelle, c'est un épisode qui se passe avant les précédents opus. La plupart du temps, c'est une origin story, une histoire qui compte les origines d'une saga, d'un personnage. Et ici, c'est Samara, le fantôme vengeur qui ferait l'objet de cette origin story. On connaîtra enfin le pourquoi du comment elle serait devenue le monstre qu'elle est aujourd'hui. Une direction pour ce The Rings qui n'est pas sans rappeler le Ring Zero, le troisième opus japonais de la saga Ring qui lui aussi racontait les origines du fantôme vengeur. Pas grande info en plus concernant le casting ou encore une date de sortie. Mais quand de plus en plus de précisions se font savoir, comptez sur moi pour vous le faire savoir. Enfin, une première bande-annonce pour le prochain James Bond. Dire que le tournage a commencé fin d'année dernière, c'est fou comme les choses peuvent aller vite parfois, car oui, ce nouveau James Bond intitulé Spectre est prévu pour une sortie en novembre prochain. Quand je vous dis que les choses vont vite, tournage, post-prod, et tout, en même pas un an. Enfin bref, Spectre, nouvel opus des aventures de l'agent secret britannique et dirigé par Sam Mendes, réalisateur de Skyfall. Daniel Craig y reprend le rôle de l'agent 007 et à ses côtés nous trouverons Monica Bellucci et la Frenchie Léa Seydoux en James Bond Girl. Face à Daniel Craig, nous trouverons Christoph Waltz dans le rôle du Missant. Enfin, c'est ce qu'il se dit. Sur ce, je n'en dis pas plus. Pour vous, bande-annonce.
Forensics finally released this.
What is it?
Personal effects they recovered from Skyfall. You've got a secret. Something you can't tell anyone. Because you don't trust anyone.
I always knew death would wear a familiar face. But not yours.
I was at a meeting recently and your name came up.
I'm flattered London are still talking about me.
It wasn't MI6.
You're a kite dancing in a hurricane, Mr. Bond.
Welcome, James. It's been a long time. And finally, here we are.
Si je dis pas de bêtises, la sortie est prévue pour le 15 novembre prochain. Enfin, que de news! Allez, petite interlude musicale avec Devil's Rise, entre parenthèses, Shall Never Surrender, de Bentley Jones.
My honored brethren, we come together to unite as one. Against those who are damned. We show no mercy. For we have none.
We will fight until eternity. Come with me, we'll stand and fight together. We'll strength, we'll make a better day tomorrow.
Devils cry and humans lie. Well, is that to say that we shouldn't even try? You know, there's blood on your hands, don't cry, deny. You see, you're the one who orchestrated this goodbye. I take it with me wherever I go. A heavy shadow behind that nobody really knows about. Ima kara aishitaru jibun janai. Cause to me it just sounds like another lie. Listen.
And I tell you now I'm the one to
Cause I make the angels scream and the devil cry.
c'était Bentley Jones avec Devil's Cries, parenthèse, Shall Never Surrender. C'est la version, c'est la démo, si je peux en parler comme ça, de la musique Shall Never Surrender que l'on peut entendre dans la bande originale de Devil May Cry 4. Voilà pour la petite anecdote. La vie. La vie sur... Hans. Hans est un film américain de Alexandre Aja. Le film est sorti en France, partout en salle, sauf chez nous, le 1er octobre 2014. Par contre, il est bien arrivé dans les bacs, même les nôtres, le 25 février 2015. Au casting, nous trouvons Daniel Harry Potter Radcliffe en tête d'affiche. Il est accompagné par Juno Temple, James Remar, le père de Dexter dans la série du même nom. Et en voici le synopsis. Soupçonné d'avoir assassiné sa fiancée, rejeté par tout ce qu'il connaît, Ignatius a sombré dans le désespoir. Un matin, il se réveille avec une paire de cornes sur la tête. Celle-ci lui donne un étrange pouvoir, celui de faire avouer leur plus noir secret aux gens qu'il croise. Ignatius se lance alors à la recherche du véritable meurtrier. Digne de la quatrième de couverture d'un thriller fantastique de Stephen King. Et justement, Hans de Alexandre Aja est un film adapté du roman Hans de Joe Hill. Joe Hill, qui est le fils de Stephen King. Ce qui peut peut-être expliquer le côté torturé des personnages du film. Car il faut le dire, les personnages de Stephen King, ou encore ici de Joe Hill, ne sont pas des plus nets. Ici, on trouve Daniel Radcliffe dans le rôle titre, celui de Ignatius. Le jeune garçon a bien grandi depuis Harry Potter. Il se permet même quelques scènes osées si l'on veut. Le film sur ce point-là, sur celui du sexe, joue de façon assez naturelle. Ça fait pas vulgaire. Je pense notamment à la scène entre Ig, diminutif de Ignatius, et sa fiancée Meryn dans leur nid d'amour. Tout pour dire que la plupart du temps, c'est de l'amour qui se dégage de ces scènes. Exception faite de quelques-unes qui peuvent être sinistres ou bien décalées. Dire qu'à la base, je voulais parler de l'interprétation des acteurs en commençant par celle de Daniel Radcliffe. Allez, revenons-en. Je disais donc, oui, que Daniel Radcliffe se permet quelques scènes osées. Mais il déploie également tout son talent dans le film de Alexandre Aja. Ce qui permet presque d'oublier qu'il a incarné un jour le sage Harry Potter. Ici, on croirait presque voir un nouvel acteur à l'écran. D'accord, c'est deux styles de films différents. Ce n'est pas aussi le même public, mais quand même. Comme on dit par chez nous, il se débrouille bien le bougre.
Je vais t'aimer jusqu'à la fin de ma vie.
Aime-moi déjà jusqu'à la fin de la mienne.
Je vous en supplie, il faut me croire, j'aimais votre fille.
Qu'est-ce que ça fait d'être libre après une accusation de meurtre?
Tu devrais implorer Dieu de sauver ton âme.
Tu devrais demander au diable de punir celui qui l'a assassiné.
Tu n'as pas à me convaincre, je crois à ton innocence.
Pourquoi essayer de me protéger? Parce que si je l'ai vraiment fait, je suis un monstre.
Avant de continuer cet avis, un dernier petit mot sur le casting en général. Globalement, ils s'en sortent tous très bien. Je n'ai pas trop noté de fausses notes, que ce soit au niveau du jeu ou de l'interprétation de certaines scènes. Un petit plus à Juno Temple qui est de toute beauté. C'est la demoiselle qui incarne Meryn dans le film. Alexandre Aja a vraiment mis en valeur la demoiselle. Dans certains plans, elle est d'une sensualité. C'est beau. La nature est belle. Tout comme le film. Alexandre Aja a su sublimer une histoire assez sombre. Ça ne perd pas le spectateur avec des plans confus ou qui essayent de rythmer inutilement l'action. C'est fluide, c'est vrai, c'est naturel. À noter certains effets de lumière particulièrement bien choisis. Je pense aux effets... aux reflets rouges qui marquent le visage de Ig par moments. Ça accentue le côté démon, le côté démoniaque du personnage. Surtout lorsqu'on le voit avec ses cornes, avec ses reflets rouges, on se dit ça y est, c'est le diable en personne. Et c'est à croire que Alexandre Aja en joue tout du long du film, car cet effet s'accentue au fur et à mesure. Au point même de... Et je ne vais pas en dire plus, ça serait spoilé.
De quoi j'ai l'air? Tu remarques rien d'inhabituel?
Tu parles des cornes?
Qu'est-ce que c'est?
Vous savez ce que je pense qu'il faut faire?
Je crois que je vais me prendre une dose d'oxycontine. On va se faire une petite ligne.
Tout le monde devient dingue dans cette ville. C'est à cause de moi et ces putains de cornes.
Tu as tué cette jeune fille innocente. Maintenant, le diable te réclame.
Je ne l'ai pas tué, mon père. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens me disent des trucs que je veux pas entendre.
Je suis vilaine. Je suis très vilaine. Je suis assez belle pour passer à la télé, pas vrai?
Effets de lumière, effets spéciaux. Allez, parlons-en brièvement. Il n'y a presque rien à redire concernant les SFX du film. SFX pour effets spéciaux. Les cornes, sûrement des prothèses, sont plus vraies que nature. On pourrait presque croire que la mésaventure de Ignatius pourrait nous arriver au réveil du matin prochain. Après, comme je l'ai dit, il n'y a presque rien à redire car ça joue pas trop dans la surenchère de ce côté-là. Je dis pas trop, je peux pas trop parler du pas trop pour pas spoiler, mais je peux parler du presque rien à dire. Car oui, il y a une mort dans le film qui fait un peu tâche à mon goût. Un personnage meurt, le visage explosé par un coup de feu. Et je sais pas pourquoi, au moment où sa tête explose, il y a comme un temps avant que le corps ne retombe. Et justement, ça fait ressortir le côté plastique de la tête explosée. Dommage. C'est pour moi le seul point noir SFX du film. Acteurs, photos du film, effets spéciaux. Il manque la musique. Pas grand plus à dire concernant la bande originale. Elle rythme bien le film. Bon, je n'ai pas retenu de thème en particulier. Par contre, j'ai bien retenu qu'on entendait du Marilyn Manson, David Bowie ou autre artiste. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je pense avoir abordé le gros du film qu'est Hans. Mais qu'est-ce que vaut Hans? Qu'en est-il de son histoire? Car bon, ici, c'est quand même une histoire que l'on cherche à nous raconter. Un peu le principe d'un film.
Je dois découvrir qui a tué Meryn et lui faire avouer son crime.
Je lui aurais jamais fait de mal.
Dis-moi! Dis-moi tout ce qui s'est passé!
Reconnaissez-vous que vous l'avez tué? Ce sera un super scoop pour moi.
J'ai une idée. Vous vous foutez sur la gueule et le vainqueur aura mon interview exclusive.
Hans, un film qui joue sur plusieurs terrains. Thriller, fantastique, drame, romance. On trouve un peu de tous ces éléments dans Hans. Et ça en rend plutôt bien. Mais le cœur du film joue surtout sur la question suivante. Qui est le meurtrier de Meryn? On prend rapidement à cœur la quête de vérité de Ignatius. Tel l'inspecteur dans un film policier, on cherche à faire la part du vrai et du faux. L'histoire se dévoile à nous au fur et à mesure que le long métrage avance. Des flashbacks aident à en apprendre plus sur le passé des personnages, ce qui permet de mieux comprendre leur présent. Ces 10 flashbacks peuvent venir à casser le rythme du film et donner l'impression que Ig n'utilise pas tant que ça le pouvoir de ses cornes. Un pouvoir qui permet justement de faire avouer les plus noirs secrets des personnages qui sont sous le joug des cornes de Ig. Et il compte bien s'en servir pour découvrir le véritable meurtrier de Meryn et ainsi assouvir sa vengeance. Car oui, dans un sens, Hans est une histoire de vengeance. Sans révéler l'intrigue, c'est une quête de vengeance où le héros est justement dévoré par ce mauvais sentiment. Plus il avance, plus ses cornes grandissent. On peut relier la poussée des cornes à l'avancée de Ignatius sur le terrain glissant qu'est la vengeance. Seulement, va-t-il se laisser consumer par la vengeance ou choisira-t-il de pardonner à celui qui lui a tout volé en assassinant sa fiancée?
Pourquoi il y a un serpent autour de ton cou?
Je me suis fait un nouvel ami.
Ce sont des cornes?
De satanées cornes.
Récapitulons. En plus, une histoire de vengeance qui mêle les genres. Une réalisation au top, le film est beau. La performance de Daniel Radcliffe. En négatif, les flashbacks, bien que utiles, peuvent venir à casser le rythme du film, voire à perdre le spectateur. Les cornes dévoilent le vrai pouvoir assez tard dans le film. Et encore, ce point, c'est pour chipoter un peu. Par contre, on peut regretter qu'il n'y ait pas plus d'explications sur le pourquoi du comment des cornes de Ignatius. En conclusion, je ne sais pas si ça s'est fait ressortir au cours de cet avis, mais dans mon cas, j'ai bien aimé Hans. Daniel Radcliffe y est vraiment surprenant dans le rôle de Ignatius. Le réalisateur français Alexandre Aja fait une nouvelle fois preuve de son talent. C'est bien dommage que le cinéma français soit réticent à ce genre de film. Du coup, il perd de bons réalisateurs et de potentiels bons films.
Non.
Non, ici, en France, on préfère les comédies ou les drames.
Non, plus sérieusement, c'est pas un coup de gueule ici, mais la conclusion d'un avis. Tout pour dire que je conseille de voir Horns. Il faut le voir pour se faire un réel avis. C'est souvent le cas, il vaut mieux y voir par soi-même pour savoir si oui ou non un film est bon. Il y a de nombreuses façons de voir un même film. Et je pense que Horns est de ceci. Il peut plaire comme déplaire. En le regardant, j'ai justement essayé de me mettre à la place d'un autre spectateur. Je me suis demandé quel pourrait être votre avis sur ce Horns à vous, auditeur. D'où ce point négatif sur les flashbacks qui peuvent peut-être venir à perdre le spectateur. Ou bien encore celui sur le pourquoi du comment des Horns de Ignatius. Il n'y a pas vraiment de réponse sur ce point. Je pense que chaque spectateur aura son avis sur la question. C'est fait exprès. Dans certains films, on laisse libre cours à l'imagination du spectateur concernant les éléments qui restent sans réponse. C'est un parti pris qui peut venir à déplaire, je le conçois. Après, comme je l'ai dit, j'en suis ressorti avec un bon avis. Pour vous aider à situer un peu mieux mes avis cette saison, je donne des notes sur 5. Et si je devais donner une note à Hans, je pense que je lui donnerais un 3,5 sur 5. Je trouve que c'est honnête. Il n'y a pas vraiment à en dire plus. Allez, petit extrait de la bande originale du film, ou comme on peut les appeler dans le jargon, les musiques qui ont inspiré le film, pour vous, Shut Up, I'm Dreaming of Place Where Lovers Have Wings de Sunset Rubdow.
You're on a distant shore. You're on a distant shore. The oceans never listen to us anyway. Oceans never listen to us anyway. And if I fall into the drink, I will say your name before I sink. His feet down. Do you hear his knuckles on your door? He wants to send you drawings, drawings of men with faithful hands. They'll make such good boyfriends. He wants to tell you stories, stories of boys who stamp their feet and shut up. I'm dreaming of places where lovers have wings. And I'll meet you where the river forks. When everyone else is dead, you'll be safe on the water. We'll be much younger. Distant shore, as the
C'était, titre à rallonge, Shut Up, I'm Dreaming of Place Where Lovers Have Wings de Sunset Rubdown. C'est la musique que l'on peut entendre lors des crédits du film. Lorsqu'il finit, et voilà, qu'il y a les noms, tout ça qui défile, on entend cette musique en fond. Pourquoi je parle tout bas, je sais pas, mais les suggestions, je vais les dire tout haut. Les suggestions. Ce mois-ci, je vais vous proposer quelques suggestions qui ne seront pas sans rappeler la rubrique sortie DVD de la saison 1 de Showtime. Car oui, les suggestions que voici sont basées sur les sorties qu'il y a eu pendant le mois de mars. Enfin, en partie. Alors, pour vous, amateurs de films d'horreur, je vous propose Rec 4 Apocalypse, la conclusion tant attendue de la saga espagnole Rec. Oui, car les Rec, ce sont des films espagnols. Nous retrouvons pour ce dernier opus Manuela Belasco dans le rôle de la journaliste Angela Vidal. Et voici ce que lui réserve la vie cette fois. Quelques heures après les terribles événements qui ont ravagé le vieil immeuble de Barcelone, passé le chaos initial, l'armée décide d'intervenir et envoie un groupe d'élite dans l'immeuble pour poser des détonateurs et mettre un terme à ce cauchemar. Mais quelques instants avant l'explosion, les soldats découvrent une ultime survivante. Angela Vidal. Elle est amenée dans un quartier de haute sécurité pour être mise en quarantaine et isolée du monde afin de subir une batterie de tests médicaux. Un endroit parfait pour la renaissance du mal. L'apocalypse peut commencer. Et si vous souhaitez poursuivre l'expérience REC, du côté livre, BD, comics, pour vous, REC Histoire Inédite. Une bande dessinée qui devrait vous plaire et qui vous intéressera très certainement si le quatrième film vous a déçu. En effet, ces petites histoires sont plus dans la veine des trois premiers REC. Car oui, le quatrième opus, bah on dirait que ça renie presque tout ce qui a été fait dans les premiers opus. Après, je vais pas en dire plus pour pas spoiler. Enfin, je parlerai un petit peu plus en détail de tout ça, pourquoi pas de REC 4 et de ces petites histoires inédites, dans un avis prochainement. Pour les séries addictes, les accros aux séries, je vous suggère iZombie, nouvelle série de la chaîne US CW. iZombie de Rob Thomas, le créateur de Veronica Mars, nous propose de suivre les investigations très particulières de Liv Moore. Très particulière car Liv est une zombie. Mais cela, c'est quoi cette série? En résumé, la voici. Olivia Moore, surnommée Liv, une étudiante transformée en zombie lors d'une soirée qui a très mal tourné, travaille en tant que médecin légiste afin de pouvoir profiter du festin que représentent pour elle les cervelles des défunts. À chaque bouchée, elle hérite des souvenirs de la personne. Cherchant désespérément un sens à sa vie, elle se rend compte qu'avec l'aide du détective Clive Babino, elle peut résoudre les affaires de meurtre et calmer ainsi les voix qui la tourmentent dans sa tête. Y'a de quoi se marrer avec un résumé pareil. J'entends des voix dans ma tête. Enfin, c'est une énième série policière qui fait son petit effet. Elle est un peu originale et, pour moi, elle n'est pas sans faire penser à True Calling, une série où une, justement, médecin légiste parlait au défunt qui lui disait, qui lui demandait en sorte d'enquêter sur ce qui leur était arrivé, trouver des réponses au pourquoi du comment ils sont arrivés dans la morgue. C'est un peu le même cas avec iZombie. Liv mange la cervelle, elle a des visions et du coup elle enquête. Vous voyez le rapprochement? Et pour terminer ces suggestions, amis gamers, amis joueurs, je vous conseille de découvrir Resident Evil Revelation 2. Resident Evil Révélation 2, c'est le nouvel opus du spin-off Révélation de la saga Resident Evil. Ici, le jeu porte bien son titre, car c'est moult révélations qui vous attendent aux côtés de Claire Redfield et Barry Burton, deux figures importantes de la mythologie Resident Evil. Et en plus de ça, des frissons vous attendent, car oui, Resident Evil Révélation 2 est comme un retour aux sources, un retour à la peur pour la saga. Car oui, la peur est vraiment au cœur de cet épisode. Et voilà, ces suggestions sont finies. Avec du recul, c'est presque des suggestions idéales pour Halloween tout ça. Frissons et zombies. Heureusement pour vous, ça ne sera pas le cas du Focus que voici tout de suite. Focus sur...
Thank you.
Agents of S.H.I.E.L.D., les agents du S.H.I.E.L.D. en français. Je vais être franc, je vais vous parler de la série Agents of S.H.I.E.L.D., mais pas seulement. Ce mois-ci, c'est la sortie d'un film attendu par nombre de fans de comics. Je parle bien entendu de Avengers Age of Ultron, ou comme ils ont bien eu l'idée en français de le surnommer, Avengers l'ère d'Ultron. Est-ce que ça mérite un coup de gueule sur les traductions de films, les trucs bidons ? Il y aurait de quoi. Mais pas maintenant. Peut-être le mois prochain. Du coup, comme c'est la sortie de Avengers Age of Ultron, ben j'avais en tête de faire une petite émission dédiée à Marvel. Vous auriez eu droit à un avis sur les Gardiens de la Galaxie et à un focus sur Agent of S.H.I.E.L.D. Mais plus le temps passait, plus je me suis dit qu'un focus serait plus approprié pour vous parler de tout ça. Au moins, je ne vais pas vous saouler tout du long d'une émission où je ne parlerai que super-héros. Surtout si vous n'êtes pas adepte du genre. Donc, pour ce focus, je vais parler un peu des Gardiens de la Galaxie et un peu de Agents et un peu de Marvel en général. Et tant qu'à faire, pourquoi pas parler aussi pour l'occasion de Age of Ultron ? On verra si le temps nous le permet. Pour les nouveaux venus dans l'univers super-héroïque de Marvel, ou encore les nouveaux venus qui m'écoutent, petite piqûre de rappel. Marvel Studios, c'est les studios à qui l'on doit Iron Man, Thor, Captain America et Avengers. Ce sont eux qui ont la majorité des droits d'adaptation des super-héros de la maison Marvel. En gros, vous attendez pas à voir un jour les X-Men combattre aux côtés des Avengers. À moins d'un accord entre la Fox, détenteur des droits d'adaptation cinématographique des X-Men, et Marvel Studios. Un accord entre Sony, détenteur des droits d'adaptation ciné de Spider-Man, et Marvel Studios a été conclu il y a peu. Le teaser fera donc partie, pour les débuts de la phase 3, du Marvel Cinematic Universe. Mais qu'est-ce donc que les phases ? Prenez le Marvel Cinematic Universe comme une grande pièce de théâtre dont chaque phase représente les grands actes. Chaque acte est composé d'un certain nombre de films qui en sont les scènes. La phase 1, le premier grand acte de l'aventure Marvel Studios, débutait avec le premier Iron Man et se concluait avec Avengers. La phase 2, le second acte, avait pour scène 1 Iron Man 3. Et elle se conclura, si je ne me trompe pas, avec Ant-Man. La phase 3, quant à elle, débutera avec Captain America Civil War, et devrait se clore en apothéose avec pour scène finale Avengers Infinity War Part 2. Je sais pas si c'est bien clair comme explication, mais pour moi c'est la plus abordable pour le néophyte. Après, si vous savez pas comment marche une pièce de théâtre... Enfin bref, avant de poursuivre plus en détail mon petit topo sur Marvel, quelques petits mots sur la phase 2, l'acte 2 du Marvel Cinematic Universe. Après une première phase qui posait les bases d'un univers fantastique, la phase 2, elle, était quelque peu en dents de scie. L'une des forces premières de l'acte 1 du MCU, Marvel Cinematic Universe en abrégé, ça me facilite la vie, reposait sur le côté nouveau de la chose. Marvel Studios avait réussi à introduire avec brio des héros comme Iron Man, Thor et Captain America au sein d'un univers partagé. En gros, comprenez par là qu'ils peuvent interagir entre eux. Des éléments des aventures d'un peuvent impacter les aventures d'un autre. C'est si l'on veut le cas dans Avengers, où nos héros font front commun face à Loki, le frère méchant de Thor. Voir ses héros préférés prendre vie ainsi sur le grand écran et combattre côte à côte, quel rêve de grand enfant ! Et le public en redemande ! Il devient compliqué d'imaginer un personnage comme Iron Man faire face en solo à une grande menace sans avoir le soutien des autres Avengers. Et pourtant, c'est ce qu'il se passe dans Iron Man 3 et dans Thor The Dark World. Les deux Avengers font face au grand jour à des menaces démesurées. Et ça, sans avoir le soutien de leurs coéquipiers ou bien du S.H.I.E.L.D., l'organisation du maintien de la paix du MCU. Heureusement, le tir est un tant soit peu rattrapé dans Captain America The Winter Soldier, où c'est le S.H.I.E.L.D. qui est directement impliqué dans une aventure du Captain. Enfin, ça bouge. Et enfin, nous avons au moins deux Avengers à l'écran dans un même film, le Captain et Black Widow. De plus, les secondes aventures du Captain se permet d'introduire le Faucon, un personnage qui pourrait avoir son importance dans les films à venir du Marvel Cinematic Universe. Mais là où la phase 2 a fait fort, c'est avec les Gardiens de la Galaxie. ce film est excellent. Un bon space opéra à la sauce 80s. Le film se permettait d'introduire non pas un héros, mais toute une équipe. Celle des gardiens. Voilà quelque chose qui se place presque au niveau d'un Avengers et qui répond aux attentes du public. À mon avis, après un Avengers, les héros que l'on connaît ne peuvent plus se permettre d'agir en solo. Ils doivent au moins œuvrer en duo à l'écran pour que ce soit parlant, cohérent. C'est ce à quoi nous aurons droit, je pense, avec certains films de la phase 3. Pour exemple, Captain America Civil War verra réunis à l'écran Captain, Black Widow, Iron Man, Le Faucon et introduira Spider-Man et le Black Panther. Ça en fera du beau monde. Et pendant ce temps, sur le petit écran, le Marvel Cinematic Universe s'étend avec une série, Agent of S.H.I.E.L.D.
Welcome to level 7.
La série Agent of S.H.I.E.L.D. fait suite aux événements de Avengers. On y retrouve l'agent Phil Coulson au retour d'un petit séjour à Tahiti.
Tahiti, it's a magical place.
Ce retour du personnage sera l'un des fils rouges de la série, un des mystères que Coulson et sa nouvelle équipe tenteront d'élucider au cours de la saison. Si les débuts de la saison 1 étaient moyens, voire parfois très moyens, la série a connu un coup de boost à la sortie de Captain America : The Winter Soldier. En effet, les événements du second Captain impliquant le S.H.I.E.L.D. vont justement impacter Agent of S.H.I.E.L.D., ce qui a permis à la première saison de se terminer avec les honneurs. Mais c'est vraiment avec sa saison 2 que Agent of S.H.I.E.L.D. se sera trouvé. Avec cette seconde saison, la série prend son envol et risque bien d'impacter elle-même les films du grand écran. Si jusque-là il fallait attendre la sortie d'un film Marvel Studios pour que la série bouge un peu, avec cette saison 2, il n'en est rien. La série, attention, spoiler! C'est ma sirène à spoiler, du coup ça veut dire qu'il y a des spoils. Donc si vous regardez la série ou que vous voulez pas vous faire spoiler en général sur Agent of S.H.I.E.L.D., fuyez! Donc, la série se permet d'introduire les Inhumans, des êtres hors du commun qui ont des pouvoirs. Gros pied de nez de la part de Marvel Studios à la Fox, car oui, jusque-là, impossible de parler des mutants dans le MCU pour cause de droits. Ce n'est plus un problème aujourd'hui car ils ont réussi avec brio à introduire des êtres dotés de pouvoir dans le MCU en la personne des Inhumans. Et la première d'entre eux n'est autre que Sky.
Because if you let this man die, Sky will never...
That's not her name!
Sky, qui, comme le monsieur l'a dit, c'est pas son vrai nom, s'appelle en réalité Daisy Johnson. Dans les comics, Daisy est une mutante capable de provoquer des tremblements de terre. Dans le MCU, Daisy est une Inhuman qui peut provoquer des tremblements de terre. Petit changement de terme, mais l'idée est la même. Et justement, nous retrouverons les Inhumans au cinéma dans un film qui leur est propre. Y retrouvera-t-on Sky ? On est en droit d'espérer au moins un clin d'œil à son personnage dans ce film à venir. Tout pour dire que la saison 2 de Agent of S.H.I.E.L.D. est pour moi une réussite. La série a enfin trouvé son rythme de croisière et se permet des choses. Et en plus, la série subira les conséquences de Age of Ultron. Alors, j'espère qu'elles seront du même niveau que les répercussions dues à Captain America The Winter Soldier. Et voilà à peu près. Je pense avoir fait un bon petit tour du Marvel Cinematic Universe dans sa globalité. Il y en aurait eu encore à dire. J'aurais pu évoquer les futures séries télé que sont Daredevil, Jessica Jones, par exemple. Mais le temps manque. Et j'ai même pas pu vous parler un peu de Age of Ultron ou encore de Ant-Man. Pas grave. Je trouverai bien l'occasion d'évoquer tout ça. Allez, je vous laisse respirer en chanson.
I guess some things never change. And
C'était Tonight Alive, The Edge, une musique tirée de la bande originale ou des musiques qui ont inspiré le film, je sais pas trop là sur le coup, de The Amazing Spider-Man 2. Quand même dommage qu'on n'ait pas eu droit à une conclusion digne de ce nom pour les aventures du Spider-Man incarné par Andrew Garfield. C'est bon pour perdre le spectateur tout ça, de faire un nouveau Spider-Man là, tout ça. Le petit gamin là qui ira au cinéma et dira « Hey, Spider-Man il a changé ». Et le père, il va dire quoi? Bah ouais, il va dire quoi? Allez, cet épisode de Showtime touche à sa fin! J'espère qu'il vous aura plu! Si vous avez quoi que ce soit à dire, suggestions, avis pour la suite, n'hésitez pas à me le faire savoir. En vous remerciant pour m'avoir écouté, et aussi un grand merci à Radio Larzac pour l'enregistrement ainsi qu'à Marie à la technique. Merci de récupérer mes cafouillages. Je vous dis, les amis, amis auditeurs, à la prochaine !